Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Il a beaucoup été question de la décision du club de hockey canadien d'affirmer au début des matchs de hockey au Centre Bell qu'on se trouvait sur un territoire traditionnel Mohawk non cédé. On discute de ce sujet et de bien d'autres questions avec Éric Bédard. Bonjour.
Bonjour.
Éric Bédard, historien, professeur à la Télé-Université et auteur, je tiens à le dire, de Le Québec tournant d'une histoire nationale qui paraît, je pense, ces jours-ci au Septentrion.
Exact.
Mais avant de vous poser des questions là-dessus, Éric Bédard, il y a eu le discours d'ouverture hier du premier ministre, pour qui vous avez déjà écrit des discours. Donc, vous pouvez vous mettre dans la peau de celui qui a écrit ce discours-là. Et il y a un aspect du discours, moi, qui m'a bien intrigué et intéressé, et je vais dire que je suis plutôt favorable, c'est qu'il dit qu'on va, pour transmettre le sentiment de fierté et de citoyenneté partagée, pour y arriver, donc, on va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse par un cours axé sur la culture et la citoyenneté québécoise. Je sais que vous êtes intéressé beaucoup à ces questions-là dans les dernières années, Éric, et je me demandais ce que vous pensiez de ce projet du premier ministre.
Ben, je trouve que c'est une excellente idée. Ça fait déjà un petit moment que c'est dans le décor. Je pense que le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, j'en avais déjà parlé. Que c'était dans ses cartons, que c'était un projet qu'il avait. Donc, vivement que ça prenne forme. Je sais que c'est long, changer des programmes comme ça, c'est un long processus. Ça peut pas se faire en un claquement de doigts, mais certainement que, en tout cas, si la CAQ est reportée au pouvoir, ça serait dans les beaux legs que la CAQ, gouvernement, pourrait nous laisser, d'avoir un cours qui, au lieu de tabler ou d'insister sur ce qui nous divise et nous sépare et nous distingue, et qui va dans le sens d'une forme de fragmentation du corps social, est un cours qui a été très critiqué pour étant comme un cours qui est très proche de l'esprit du multiculturalisme, finalement. Mm-hmm. Donc, aller vers un cours qui nous unit, qui nous rassemble. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Évidemment, en sachant que le Québec a bénéficié de l'apport de toutes sortes de l'arrivée de gens qui venaient d'un peu partout dans le monde. Mais une fois que ça est dit, qu'est-ce qu'on a en commun et comment dire nous?
Oui,
comment
c'est
dire
ça.
Nous après, une fois qu'on sort de l'école, voilà. Il ne s'agit pas de faire du mourage de crâne puis de la propagande, il s'agit de mieux faire connaître ce qu'on vit au Québec. Et je dirais, tant qu'à y être, pourquoi le gouvernement n'irait pas ne renouerait pas avec l'idée, le projet du Parti québécois à l'époque où Pierre Duchesne était ministre de l'enseignement supérieur.
Oui.
Pourquoi pas ramener l'idée d'un cours d'histoire obligatoire au cégep? Mm-hmm. On a une jeunesse qui est très, très branchée sur les réseaux sociaux américains, les blogueurs américains, les podcasts américains. Et on importe souvent des États-Unis des façons de penser, des façons de réfléchir, qui sont pas vraiment adaptés à ce que nous, on a comme histoire. Donc, pourquoi pas un cours d'histoire? Ça, je pense que ça pourrait être une très, très belle contribution aussi.
Je reviens à la déclaration du premier ministre sur ECR, le cours éthique et culture religieuse. Il dit un cours axé sur la culture et la citoyenneté québécoise. Est-ce que ça serait une occasion aussi de retirer tout l'aspect citoyenneté du fameux cours d'histoire de secondaire 3, secondaire 4?
Il est déjà en bonne partie... Avec la réforme du cours d'histoire secondaire 3, secondaire 4, qui a été proposée par le Parti québécois, instaurée par le Parti québécois de Pauline Marois, et fort heureusement laissée en place par le gouvernement Couillard, cette dimension éducation à la citoyenneté a été un peu mise de côté, ou en tout cas, elle est en sourdine. C'est un vrai cours d'histoire que les élèves du secondaire 3 et 4 ont en ce moment. Je peux vous le dire, si vous regardez les manuels, là, il y a beaucoup de contenu. C'est une structure entièrement chronologique, alors qu'elle était thématique en secondaire 4 avant, et ce qui mélangeait beaucoup les jeunes et les enseignants. Donc, oui, de toute façon, c'est déjà le cas.
Très bien. Territoire non cédé maintenant. Donc, est-ce que le Canadien, ça fait quelques jours là, que la controverse dure, est-ce que le Canadien s'est trompé en faisant ça?
Ben, il y a deux aspects, il y a deux enjeux là-dedans. Il y a est-ce qu'on peut parler de territoire Mohawk non cédé, donc au niveau de la rigueur historique, est-ce que c'est fondé, c'est légitime? Et il y a, est-ce que c'est une bonne chose que de faire ce qu'ils vont faire, répéter à chaque match que nous sommes sur un territoire non cédé, quelle que soit la nation à la limite? À la première question, je répondrais que c'est très imprudent de la part du Canadien d'avoir opté pour la nation Mohawk, puisque les spécialistes sont loin d'être d'accord avec cette prétention qu'ont les Mohawks que c'est leur terre, que Montréal est leur terre. Je pourrais vous expliquer ça en long et en large, là, mais pour faire vite, il y a comme deux. L'explication la plus connue, c'est que les Mohawks seraient les descendants d'Iroquois convertis, hein, qui sont arrivés dans les deux villages à l'origine de Kanasetake et de Kanawake, qui ont été fondés par des congrégations religieuses en but de les civiliser, entre guillemets, là, de les christianiser. Et donc, ces Iroquois, ces ancêtres des Mohawks d'aujourd'hui, seraient arrivés donc après la fondation de Montréal. Mais eux nous disent qu'ils seraient les descendants des Iroquois de la vallée du Saint-Laurent, de l'époque de Jacques Cartier et d'avant, évidemment. Parce que Jacques Cartier, en effet, va croiser des Iroquois sur l'île de Montréal, c'est le petit village de Schlaga, mais il va aussi noter une présence d'Iroquois dans cette région, dans la grande région de Montréal, le long du fleuve. Mais ils sont complètement disparus 70 ans plus tard, lorsque revient sur le même chemin, ouais, Champlain. Et alors là, on va supputer sur les raisons de ça. Il y en a qui vont dire que c'est essentiellement, ce sont des raisons d'épidémie apportées par les Français avec l'expédition de Roberval des années 1542. D'autres vont dire non, ce sont des guerres entre autochtones, entre la coalition laurentienne, les futurs alliés des Français, donc les Algonquins, les Innus, les Etchemins, et les Iroquois du Sud. Et donc, cette guerre a été perdue par ces Iroquois et que soit ils ont été tous plus ou moins tués, massacrés, ou soit qu'ils se sont réfugiés ailleurs, notamment en Outaouais, mais aussi dans la région d'Albany. Et donc, il est loin d'être clair. Donc, ils étaient combien à s'être réfugiés? Est-ce qu'ils étaient 100, 200, 500? On ne sait pas, on n'a aucun chiffre. Et ce que disent aussi les spécialistes, c'est que ces Iroquois de la vallée du Saint-Laurent avaient une culture un peu distincte, n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux que les Iroquois, disons, de la région d'Albany. Par la poterie qui a été découverte, par la façon de compter. Et donc, il n'y aurait pas nécessairement de lien. Donc, autrement dit, c'est très fragile. Mm-hmm. Et aussi, en 1642, ceux qui circulaient sur l'île de Montréal, c'était essentiellement des Algonquins. Mm-hmm. Beaucoup plus que... Alors donc, c'était imprudent. Et à la deuxième question, est-ce que c'est une voie de réconciliation? Je pense pas. Je pense que ça, on le voit là, on en parle depuis trois jours, ça crée un malaise. Alors, soit d'un côté, ça peut mettre les nations les unes contre les autres, si vous choisissez une nation plutôt qu'une autre. Ça dit aux Autochtones, on est chez vous, puis on va y rester, et puis on vous a volé vos terres, et puis c'est comme ça, voilà.
Quasiment.
Et du côté des descendants d'Européens comme vous et moi, ça envoie le message que finalement, on n'est peut-être pas chez nous tout à fait. Donc, moi, je trouve qu'on est juste dans le symbolique, on est juste dans la bien-pensance, c'est quoi la prochaine étape? Une fois qu'on a dit ça,
oui,
on fait quoi?
C'est la question que vous avez posée d'ailleurs dans un entretien qu'on peut regarder sur YouTube, un entretien qui date du mois de mai. Vous l'avez posé à Gilles Bibeau, un anthropologue, exact, et auteur de livres sur les Autochtones. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle sorte de... Ça débouche sur quelle politique, ça, l'incantation du territoire non cédé? Avez-vous été satisfait de sa réponse à Gilles Bibeau?
Plus ou moins. Alors, si vous vous souvenez bien, M. Bibeau était un peu mal à l'aise avec cette question. Il dit, écoutez, là, vous m'amenez sur le terrain politique. Alors, je dis, oui, je le sais, parce que c'est éminemment politique. Et il a un petit peu éludé la question en disant que Il faudrait renouer avec une meilleure toponymie. Mais il était un peu évasif. Et c'est normal, puisque lui, il est chercheur, anthropologue. Oui. Il n'est pas là pour nous amener des solutions. Mais en même temps, ça montre le malaise. Et là, c'est nos politiciens qui répètent ces phrases incantatoires. C'est à eux qu'il faut poser ces questions. Vous faites ça, vous, OK, vous vous donnez bonne conscience. Mais on va où après? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on fait de la loi sur la loi de 1876? Là? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis au Québec, je trouve ça un peu plate parce que ça nous vient de l'ouest du Canada, beaucoup, ces histoires-là. Comme mm-hmm. on montrait d'ailleurs, Isabelle Haché avait fait un bon article hier.
Dans la presse, oui.
Exactement, dans la presse. Donc ça nous vient beaucoup de l'ouest canadien où les communautés sont installées depuis beaucoup moins longtemps et c'est plus facile à identifier. Il y a eu des traités aussi. Parce que c'était le 19e siècle, mais nous, je trouve qu'au Québec, on a commencé la réconciliation depuis les années 70. Je trouve qu'on a quand même je trouve qu'on a fait des choses, la Convention de la Baie James, la reconnaissance de René Lévesque de 1985, ensuite la Paix des Braves de 2001, l'entente que vient de signer Hydro-Québec pour faire passer ses lignes aux États-Unis.
Avec les Mohawks, justement, oui.
Exactement, mais je trouve qu'on a là des institutions publiques, des politiciens, des conventions qui ont été signées. C'est pas parfait, et puis c'est pas pour dire qu'on a toujours été des anges avec les Autochtones, mais on a déjà... Et c'est ça que j'aurais répondu si j'avais été le conseiller du premier ministre, tiens, quand il s'est fait harceler de questions là, le jour là, de la oui. journée Vérité et Réconciliation. J'aurais dit, écoutez, d'abord, c'est une fête qui a été décrétée sans nous consulter par le premier ministre Justin Trudeau, fête qu'il n'a pas fêté lui-même, d'ailleurs, on le sait.
Oui.
Ensuite,
il est allé se reposer sur une plage. Oui.
Exactement. Nous, là, on a commencé la réconciliation. On n'a pas attendu Justin Trudeau et le Canada anglais. Nous, on a commencé la réconciliation comme peuple depuis déjà plusieurs décennies avec la Convention de la Baie James, avec René Lévesque. C'était un peu son testament, René Lévesque, on l'oublie.
Absolument.
Mais avant de démissionner en 85, c'est un des derniers gestes significatifs qu'il a fait, que de faire adopter cette motion, mm-hmm. et ensuite la paix des braves, et ainsi de suite. Donc, ouais. nous, on n'est pas les bras croisés, là. On n'a pas attendu après Justin, et puis c'est
les larmes.
Comment ça s'appelle, là? celle qui brûle des livres là dans le nord de l'Ontario là qui Suzy Keyes, je sais pas quoi.
Oui, c'est ça. La fausse autochtone
militante du Parti libéral du Canada. Bon, alors on n'a pas entendu après ces gens-là nous pour faire des choses concrètes. C'est très important. Je trouve que là,
et vous
oui,
dites pas... dans votre livre justement le oui. Québec tournant d'une histoire nationale qui paraît ces jours-ci, vous avez un chapitre qui s'intitule Au commencement était la fête. Donc ça avait bien commencé avec les Autochtones et les Français et il y a la fameuse tabagie de 1603. Parlez-nous de ça, parce que moi, c'est intéressant.
Je vous ferai une petite prédiction, Antoine. Moi, je ne serais pas surpris que nous avons tous les deux des enfants. Espérons que nous aurons peut-être des petits-enfants, vous et moi, mais que peut-être nos petits-enfants, lorsqu'ils vont ouvrir leur livre d'histoire du Québec, vont se faire dire que la véritable date de fondation du Québec, ce n'est pas 1608, la fondation de Québec, telle que nous, on l'a plus apprise. Mais c'est probablement 1603. Mm-hmm. Sans 1603, sans la tabagie de Tadoussac, il est fort à parier que l'installation des Français, de la vingtaine de Français, on se comprend, là, c'est rien, là, en 1608, autour de l'habitation construite par les hommes de Champlain, ça aurait été impossible. Denis Delage nous l'a bien montré dans plusieurs textes. L'été, à l'époque où Champlain s'installe à Québec, durant l'été, il y avait environ 1500 Autochtones qui circulaient à Québec, qui venaient pour chasser, qui venaient pour pêcher. Donc, imaginez que 20 hommes qui s'installent, qui installent une cabane et qui sont dans un climat d'hostilité avec les Autochtones, ça, en 3 jours, ils sont tous morts.
Oui.
Donc, comment expliquer que les Autochtones, finalement, ont laissé les Français s'installer, que ça s'est assez bien passé? Il faut remonter dans le temps, il faut remonter 5 ans en arrière. Et il faut essayer de comprendre cette espèce d'alliance scellée de façon informelle, je dirais, à la manière des Autochtones, c'est-à-dire en faisant une fête, en partageant la tabagie, voilà.
C'est ça.
Et les Français arrivaient à un bon moment parce que les Autochtones qui étaient à Tadoussac ce printemps-là, un peu par hasard, c'est une coïncidence, ils revenaient d'une victoire, ils venaient de remporter une victoire contre les Iroquois du Sud. Et d'ailleurs, Champlain décrit des scalps, donc ils reviennent, ils font la fête, sont de bonne humeur, sont heureux. Et aussi, coup du hasard, les Français ont avec eux un interprète. Donc, c'est un Innu, un montagnais qu'ils avaient amené en France l'année précédente, qui a appris le français, donc qui sert d'interprète, de truchement. Et donc, le chef Anadabijou, enfin le chef, l'homme charismatique qui parle un peu au nom des Innu, oui, à ce moment-là, dit, écoutez, vous êtes les bienvenus chez nous, c'est ce que rapporte Champlain, mais à une condition, vous allez combattre les Iroquois à nos côtés. Et là, ça veut dire que pour les Français, ils vont être pendant un siècle en guerre contre les Iroquois avec des périodes
de... Jusqu'à la grande paix de 1701.
Exact.
Encore là, on
jusqu'à
parle de la paix.
Grande paix.
Oui.
Exact, exact. Et d'ailleurs, c'est une prouesse diplomatique du gouverneur Callière que cette paix de 1701, ça, on pourra en reparler.
Oui.
Mais voyez, donc, c'est sonné, et Henri IV, et la chance qu'on a, je dirais, c'est que le roi qui règne sur la France à ce moment-là, qui est un peu le mentor de Samuel de Champlain, c'est Henri IV. Mais Henri IV, on en a déjà parlé ensemble à votre émission,
ben oui,
c'est l'homme de la réconciliation, c'est l'homme de la concorde, c'est l'ancien protestant qui se convertit pour un peu acheter la paix, mais parce qu'il se rend bien compte qu'on ne peut pas s'entretuer.
Et les Français qui sont envoyés ici sont envoyés dans un esprit de concorde. On leur demande de négocier et trafiquer aimablement et paisiblement avec les habitants du territoire.
Exactement. La consigne d'Henri IV.
Il citait au texte, là, oui.
Ben exactement. Vous citez le texte, la lettre de commission qui va être octroyée, signée de la main d'Henri IV à Pierre du Gadomont.
Oui.
Donc, c'est ça. C'est une lettre de l'automne. Donc, c'est après le voyage. Autrement dit, ce qu'Henri IV dit, c'est il ne dit pas exterminez-les. On les balaye du territoire. On s'installe, puis point à la ligne. Non, non, il dit, essayez de vous entendre. Et si ça ne marche pas, bon, peut-être que là, il faudra utiliser la manière forte. Mais essayons de nous entendre, essayons de collaborer.
Vous, oui.
Et c'est ce que fera Champlain. Mais en même temps,
oui.
Oui.
Dans votre livre, vous dites que votre intention n'est pas de verser dans l'angélisme, mais il y a certains qui vont vous le reprocher. C'est-à-dire,
oui, c'est possible.
Est-ce que les Français étaient... uniquement des bons Français, des gentils.
Ben, c'est-à-dire que, ben voilà, mais là, ça c'est très important ce que vous dites là. Les vieux historiens colonialistes français, là, j'ai lu un bel article d'historiographie sur le sujet. Évidemment qu'eux, ils voulaient montrer que les Français étaient de meilleurs colonisateurs que les autres.
Oui, c'est
mais
ça.
Mais vous comprenez bien que c'est pas ça mon intention, Antoine.
Non.
Moi, je fais juste expliquer un contexte. Autrement dit, les Français ont eu une main tendue à l'égard des Autochtones, non pas à cause d'une naissance, mais à cause de circonstances.
C'est ça.
C'est pas parce que c'est les circonstances qui nous permettent de comprendre pourquoi les Français ont eu cette attitude. Et une des circonstances majeures qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'économie de la Nouvelle-France dépend de la fourrure. Et donc, les Autochtones ont été des partenaires de commerce indispensables.
Mais oui.
Donc, c'est aussi pour ça. Donc, c'est des raisons aussi d'intérêt. Des raisons de contexte politique et religieux que je viens d'exposer avec Henri IV.
Oui.
Mais c'est aussi des raisons économiques en lien avec ce qui fait que la colonie peut être un peu rentable.
Il nous reste peu de temps,
oui.
Éric. Je voudrais vous poser une question très précise. Est-ce qu'il faudrait commémorer la tabagie de 1603. Donc, en mai 2023, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une journée de commémoration de la tabagie? Question de faire connaître cette autre mémoire-là.
Oui. Alors, moi, c'est une proposition un peu audacieuse, mais je déplacerai la fête des Patriotes à l'automne, puisque les affrontements se sont passés à l'automne. Et j'instaurerai une journée une journée de la tabagie, je sais pas, je cherche un terme pour la désigner, mais qui montrerait, dans le fond, que c'est ça, l'histoire du Québec commence par une alliance en confiance entre Français et Autochtones, et notre histoire commence, autrement dit, par une fête et non par un massacre, et je pense qu'il faut le rappeler. Moi, j'aimerais ça qu'à Tadoussac, qui est un lieu de mémoire, d'ailleurs, on pourrait d'ailleurs intituler le pourrait créer un passage, un espace Serge Bouchard pour y rendre en même temps hommage, mais un autre espace Anada Bijoux, Serge Bouchard qui a voulu beaucoup nous faire découvrir le peuple innu, qui a de quoi insister sur aussi cette tabagie de Tadoussac, mais...
Merci infiniment, Éric. C'est plein de
oui,
d'idées.
Excusez-moi, je parle trop.
Non, non, au contraire. Vous avez plein d'idées, comment dire, très, très, très séduisantes. Merci infiniment. Puis je renvoie au titre de votre livre, Le Québec tournant d'une histoire nationale, qui paraît ces jours-ci au Septentrion. Merci infiniment, Éric Bédard.
Merci beaucoup, Antoine. Au plaisir.
Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.